Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en mars 2025 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Drou et je suis accompagné de Lana. Bonjour Lana.
Bonjour.
Et nous accueillons Jérémy Gracq et Cyril Moulard de la Cultimatech.
Bonjour.
Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Nous allons développer un peu votre actualité puisque vous nous venez d'assez loin quand même par rapport à Cannes. Mais avant ça, nous allons commencer traditionnellement par notre petit fil rouge. Vous allez vous mettre dans le rôle du jury et définir vos as d'or, mais pas les as d'or traditionnels. On va vous demander quel est pour vous l'as d'or du jeu que vous sortez pour rire avec les potes.
Alors bah, ça dépend des potes puisqu'il y a plusieurs cercles de joueurs. On va dire j'ai une petite affection pour Privacy de Gigamic, les petites questions qui peuvent être à la fois coquines, etc. Les réponses sont très intéressantes par rapport au vote et déduire qui c'est qui autour de la table aurait pu dire telle ou telle chose. Et puis surtout on en apprend beaucoup de celui qui choisit la question et c'est peut-être ça qui est encore plus intéressant. D'une manière générale, en fait, Jérémy est directeur de l'association, mais il n'est pas du tout du monde du jeu.
Ah ouais,
il n'est
pas voilà.
D'où l'expression en début.
Ok, ça va.
Quel est l'as d'or qui vous a fait le plus fumer le cerveau ?
Alors, fumer non, puisque c'est mon petit plaisir, c'est Sight. C'est un jeu que je joue avec mes gamins pour le plus jeune, dès ses 8 ans, et donc 11 ans pour le plus grand. On est à 4 autour de la table. Et effectivement, mes enfants sont élevés aux stéroïdes, puisque du coup, ils pratiquent la ludothèque dès qu'ils sortent de classe, etc. Donc, ils sont pas adaptés à l'âge par rapport aux 14 ans plus, mais l'éveil ludique, tel que moi je la démontre, en famille, c'est envisageable avec un petit peu d'effort.
La relève est assurée.
Quel as d'or du jeu auquel vous ne voulez plus jamais rejouer ?
Non, bah disons que dans l'absolu, je vais pas dire plus jamais jouer parce que j'ai quand même du plaisir à le faire découvrir, ne serait-ce que par la mécanique. Mais il y a The Mind qui a suscité beaucoup de questionnements. Alors Oya est un éditeur partenaire, donc il y a pas de souci. Mais c'est vrai que The Mind demande un effort intellectuel, mais un effort ludique pour adhérer au jeu. Par contre, effectivement, je vais pas y jouer 150 ans avec un groupe à qui je l'ai fait découvrir. On va faire 3-4 parties juste pour se challenger. Mais voilà, The Mind, et donc voilà.
Quel est l'as d'or du jeu auquel vous pensez encore 3 jours après la partie ?
Oh, c'est délicat. C'est pas systématique, mais on va dire sur un Dixit où effectivement, ah, j'aurais dû jouer ça, où on en reparle derrière les engueulades de famille, généralement qu'on jouait avec ça dulciné, où effectivement on comprend pas pourquoi on n'a pas compris l'autre et ça peut revenir autour de la vaisselle.
Est-ce que t'as une idée particulière ou...
À tous, parce que c'est une découverte à chaque fois, donc il y a toujours des flashbacks qui reviennent spécifiquement, mais après, pour un jeu en particulier, non, pas encore. Pour l'instant, je suis vraiment dans le spectre très large de découvrir, en fait. Et chaque jeu, pour moi, il y a toujours un questionnement qui revient derrière, etc. Donc, en cibler un en particulier, je peux pas encore, en tout cas.
Et pour finir, pour vous, quel est l'as d'or du jeu le plus moche ?
Esthétiquement,
mais qu'on peut adorer, et c'est ça qui est paradoxal, mais...
Alors j'essaye de tourner, mais on va dire que maintenant ça commence à être assez ancien. On va dire que c'était des anciens jeux qui venaient de la Germanie, on va dire, où effectivement c'était assez abrupt, assez pas beau.
Tu n'aimes pas le Maronas?
J'aime bien les jeux à poste ouvrier, donc ça y a pas de souci. Je suis prêt à accepter certains choix de design, mais c'est vrai que les jeux d'il y a une quinzaine d'années étaient encore bruts de décoffrage et ça piquait un petit peu les yeux quand même. Fallait vraiment faire un effort pour s'intéresser au jeu si on est sur le visuel.
Les 50 nuances de marron.
Voilà, exactement. Et encore en admettant qu'il n'y ait pas d'erreur d'impression et de filigrane qui décale.
Très bien, merci pour ce petit fil rouge. Nous allons commencer. Donc on va commencer par vous présenter. J'ai teasé un petit peu que vous nous veniez de loin, mais c'est loin comment ?
C'est loin, la France équatoriale, hein, les cousins d'Amérique, hein, comme diraient les Canadiens. Donc en fait, nous sommes de Guyane française, donc 8000 kilomètres pour arriver jusqu'au Festival de Cannes. Et donc c'est un effort assez conséquent pour nous et donc qui montre aussi à quel point le festival a son importance pour nous.
Vous êtes venus à beaucoup ?
Nous sommes venus à deux, accompagnés aussi. de la future génération en formation.
Voilà, j'en ai profité pour emmener mes enfants pour venir découvrir ce festival. Et puis accessoirement, c'est totalement intéressé. C'est aussi pour ramener le maximum de jeux par rapport aux valises dans l'avion.
Eh oui.
25 kilos chacun. Parce que très bien.
C'est un coût aussi.
Plus bagages supplémentaires.
Donc on ne l'a pas dit, effectivement, vous nous venez de Guyane et vous, donc vous êtes de la Cultimatech. La Cultimatech, c'est quoi ?
Culture de l'imaginaire, parce qu'on culture, on cultive justement, on collectionne, pardon, justement, tous les techs en fait, toutes les technologies en tout cas.
Voilà, c'est culture de l'imaginaire et techs parce qu'on collectionne nos supports d'activité. Et effectivement, on a un prisme large, du jeu de société certes, puisque c'est à partir de cet outil où on peut travailler le mieux sur l'apprentissage des savoirs de base, sur le lien social, puisque la Cultimatech est d'essence éducation populaire et politique de la ville. Donc, nous sommes adhérents à l'Association des Ludothèques de France. Et donc, du coup, avec ce spectre large, il était nécessaire pour nous de collectionner nos supports d'activité et pour les animations, pour avoir des activités diversifiées, mais surtout pour garder des traces, puisque c'est comme d'habitude, on achète un jeu, il peut rester sur l'étagère pendant un certain temps et on va le sortir au bon moment, mais quand on l'a raté, ben, on peut plus. Donc on a aussi cet aspect petit écureuil qui grappillon, qui gardons des jeux sous le coude.
On a eu l'occasion de vous recevoir en 2019, déjà au sein du Festival de Cannes. Donc vous pouvez aller réécouter cette émission pour plus de détails sur la Cultimatech de l'époque, mais la Cultimatech évolue. Je vais résumer un petit peu, mais c'était une ludothèque qui se diffusait, on va dire, tout au sein de la Guyane, mais pas uniquement ludothèque, comme vous venez de le rappeler. Hein. Il y a aussi du jeu vidéo. Et d'autres activités.
Mm-hmm.
Tout à fait. Donc, je vais laisser après la parole à Jérémy puisque c'est l'avenir de l'association. Donc, je suis membre fondateur de l'association et ancien président. J'ai lâché la présidence de la Cultimatech depuis maintenant 2 ans. Steph Stylien, donc, est le nouveau président et en fait un ancien jeune de la Cultimatech. Il a été service civique en 2013 et donc 10 ans après, il a pris la présidence de la Cultimatech et c'est un petit peu l'essence de tout ce que j'ai voulu transmettre en fait, que les jeunes Guyanais puissent s'approprier le média jeu pour toutes les applications que nous on a bien voulu faire. En 2019, on venait juste de lancer la ludothèque passe-temps et donc effectivement maintenant depuis 6 ans ça a porté ses fruits, c'est-à-dire ça nous a permis de pérenniser de l'emploi. Donc du coup au lieu de vivre sur des subventions qui nous permettaient d'être en activité réelle uniquement pendant les vacances et ponctuellement sur des événements, la ludothèque passe-temps nous a permis de créer de l'emploi, maintenir de l'emploi. On a maintenant des salariés qui sont avec nous depuis plus de 7 ans et donc des jeunes aussi qui ont découvert le jeu à travers nous et qui en ont fait un métier à part entière. Et donc Jérémy nous a rejoint depuis juin de l'année dernière en tant que directeur. Alors certes il n'est pas du monde du jeu, mais il a cette affinité avec l'économie sociale et solidaire, et étant de formation médiateur, il parlera de lui-même de son passé, c'était un regard extérieur qui est nécessaire puisque du coup il gère une équipe de jeunes et à la fois avec de l'expérience dans le jeu et aussi des jeunes à former complètement, notamment grâce aux bénévoles qui font partie du projet Prends ton envol, on ira jouer chez vous, dont vous parlera tout à l'heure. Jérémy, le micro est à toi.
Oui, de même. Hein. C'est que au-delà d'une ludothèque, en fait, on a vraiment un centre où on connaît ludothèque pour les passages, en fait. Et là, on a une spécialité, c'est qu'on se situe en face d'une école, en fait. Mais même pas que. On a une école privée en face de nous et 3 autres. En fait, du coup, on a fait un petit rebond avec tout ce qui va être le périscolaire, l'extrascolaire, pendant les vacances aussi, les stages, etc. Et du coup, on permet, nous, parce qu'en Guyane, le jeu n'est pas aussi développé qu'ici. Et du coup, de s'attaquer aux premières générations, donc aux tout petits déjà, ça développe un intérêt. Et on le voit, hein, les premiers jours, ils arrivent, ils sont là, oh, ouais, mais tonton, mais nanana, on préfère nanana. Et à l'inverse, ils commencent à prendre un jeu de jeu. Et avec les techniques d'animation qui nous ont été transmises justement par Cyril, le fait de, entre guillemets, dépoussiérer ce support-là pour eux de leur côté, ça attire de l'engouement. Et après, ça fait surtout tourner les neurones aussi, surtout ça les fait réfléchir. Et on a le retour des parents justement qui, ah, mais mes enfants parlaient tel jeu, ah, ça leur a plu, ah, ben on va se le procurer, ah, mais on a vu que vous faisiez des soirées, parce qu'on fait aussi des soirées le samedi, en fait, le samedi soir, ponctuellement en tout cas, mais on peut même en faire un peu plus. Et du coup, ça réanime un peu ce tissu-là, cette envie-là. Et puis on le voit même, hein, les enfants reviennent de quelques semaines après en disant, ah, mais moi j'ai ce jeu-là, j'ai progressé à la maison, etc., etc.
On a aussi les structures médico-sociales qui maintenant s'approprient le lieu, des associations sur les 10, les personnes à mobilité réduite, Jérémy signe, donc aussi pareil autour des malentendants, on a aussi cette interaction avec tous les publics, avec le PLC, le plan de lutte contre l'illettrisme. On est allé vers des publics de France Travail, donc déjà d'un certain âge, hein, 45-60 ans. On parle aussi de cultures différentes, on parle de Brésiliens, d'Haïtiens qui ne connaissent pas le jeu de la même manière que nous. Et le jeu leur a servi dans le cursus du PLCI justement de se satisfaire, de réussir à gérer leur complexe vis-à-vis de la langue française, qui en plus a été accentué parce que leurs enfants généralement maîtrisent mieux, parce que en milieu scolaire et autres. Et donc justement, c'est vraiment, on a cette chance là de taper vraiment dans tous les coins avec notre territoire et ce qu'on a fait de la Cultimatech.
Donc maintenant, ce sont vraiment les personnes qui viennent dans vos locaux.
Oui.
Vous continuez toujours avec... Vous aviez des bus.
On en continue. On a la partie itinérante, donc histoire de couvrir le plus possible le territoire, donc avec des ludobus ou de manière ponctuelle aussi des petits containers, en fait, qu'on déplace avec les tentes autour. Du coup, ça permet de créer de l'animation dans des quartiers ciblés. Donc, comme on disait en début d'interview, tout ce qui est politique de ville, donc quartier prioritaire, par exemple, là où on obtiendra des financements qui nous permettront, nous, de perdurer aussi. Après, on a ces clientèles qui viennent dans la ludothèque aussi. Donc, comme il le parlait, autour de l'autisme, autour des 10, autour de tous ces troubles de l'apprentissage, en fait, qui commencent à découvrir et à voir que les outils ludiques sont très utiles, en tout cas. Comme il le parlait tout à l'heure sur le PLCI, donc plan de lutte contre l'illettrisme, en Guyane, c'est un grand combat parce que dans les demandeurs d'emploi, il y a peut-être pas une majorité, mais beaucoup de personnes qui se retrouvent face à cette difficulté. Et de se retrouver dans un lieu où on peut venir avec ses enfants, avec un animateur qui, dans un côté, va s'en occuper, donc avec des animations de petite enfance, en tout cas, et les parents vont pouvoir, eux, commencer à jouer au jeu. Et là, on se retrouve pas devant un tableau à écrire, à jouer les mots, donc c'est plus amusant, ils repartent avec le sourire.
Donc en fait, l'association a deux pattes. On a cette itinérance qui est dans l'ADN de l'association, puisque de 2011 à 2018, nous n'avions pas de structure fixe. Donc nous étions accueillis effectivement en maison de quartier, sur les places de village, etc., etc. Et le passe-temps est en fait la branche entre guillemets qui nous permet d'aller chercher l'autofinancement. Mais 80% de nos activités restent encore de l'action sociale, du jeu gratuit à destination de tous les publics. Donc effectivement, on se bat pour aller chercher des cofinancements. Donc effectivement, la politique de la ville, c'est l'essentiel. On a la confiance de la CAF, on a la confiance de l'éducation nationale à travers Cité éducative, par exemple. Et on a réellement réussi à porter cet étendard. On a la chance, malchance en Guyane, d'avoir énormément de dispositifs financés au niveau social, parce que la Guyane a énormément de retard en tant qu'entité ultra-périphérique par rapport à la métropole. Donc c'est pas qu'il y a moins de besoins en métropole, c'est juste qu'il y a trop de besoins en Guyane, et une association telle que la nôtre a pu prospérer sur ce terreau-là justement parce qu'on est abreuvé de ce flux d'aides, et ces aides en fait sont nécessaires, vraiment très très nécessaires. Et donc du coup, malgré tout, on a aussi cette envie de partager cette expérience avec d'autres ludothèques en France, parce que on n'est pas nécessairement tous dans la même orientation. Nous avons des ludothèques faites par des passionnés, des joueurs qui sont totalement détachés donc des collectivités. On a des collectivités qui s'approprient la ludothèque un petit peu à la manière d'une médiathèque, d'une bibliothèque, donc un lieu culturel mis à disposition en plus de leurs usagers. Et donc du coup, c'est ce mix de passion, c'est ce mix de réflexion sur l'intérêt pour le social, la collectivité, qui quelque part fait de la Cultimatech un extraterrestre, quand bien sûr on ose se comparer avec d'autres fonctionnements, pareil au Canada, pareil en Italie, où chacun a des pratiques adaptées à ses propres publics.
Après, on peut parler aussi des publics qu'on retrouve en Guyane aussi. Ouais, c'est-à-dire qu'en Guyane, vous allez retrouver les publics autochtones déjà, par exemple. Donc tout ce qui va être les Amérindiens, les Bushinengue. Donc Bushinengue sont les descendants d'esclaves, ceux qui se sont révoltés, qui sont restés. Du coup, il y a plusieurs langues aussi, plusieurs dialectes, plusieurs créoles aussi qui sont utilisés en Guyane, en fait. Après, on a le volet aussi de nos voisins, l'immigration, donc le Brésil, le Suriname.
Les Syriens aussi,
les Syriens,
qui passent par le Brésil pour arriver en France via la Guyane.
Nous avons aussi beaucoup d'Haïtiens aussi. Voilà, enfin tout ce qui va de la petite Caraïbe autour aussi. Du coup, il y a toute cette mixité, d'ailleurs, qui se retrouve dans nos équipes, même d'animateurs ou de bénévoles. Hein. On le voit sur nos éléments. On est multiculturel, en fait. Il y a
Plurethnique. Hein.
Plurethnique, voilà, merci. Du coup, c'est ce qui fait aussi cette magie, c'est qu'on se retrouve à échanger. Puis chacun a son petit monde, a ses petites traditions. du coup, autour des jeux, autour de tout ça, ça crée un certain engouement, en tout cas.
Là, justement, ça allait être une de mes questions. Vous avez des bénévoles spécifiquement pour expliquer dans d'autres langues, en fonction du public qui va passer à la
En fait, le but, c'est au-delà d'expliquer, c'est que de faire perdurer ce travail qui a été mis. Donc oui, il y a une équipe de salariés, une petite équipe de salariés. On a aussi des services civiques qui se joignent à l'équipe, mais sans nos bénévoles, parce que de eux-mêmes qui viennent des quartiers dits prioritaires déjà, donc c'est un peu comme des grands frères. Donc déjà, quand nous, on se déplace en itinérance, en fait, déjà, on a cette facilité, on n'a pas cette barrière-là avec le public. Et le fait de les recevoir, de leur partager ce monde-là, de les former au jeu, eh bien, ça devient des petits ambassadeurs eux aussi. Et comme ça a été dit aussi en début d'interview, notre bureau vient de là. Que ce soit notre président, que ce soit notre secrétaire, notre trésorier, ont tous été bénévoles, service civique, il y a quelques années, dans l'association, et aujourd'hui sont les têtes pensantes au-dessus de nous, quoi, en fait. Ça montre que la boucle est faite, concrètement, en tout cas, déjà. Qui se l'approprient en tout cas et que ça va de l'avant. Et on le voit même des bénévoles qui sont là, ils ont fait une semaine avec nous, par exemple, c'est un bénévole, il choisit son temps, ce qu'il peut faire. Et hop, on nous appelle, ah oui, on m'a appelé, nanana, j'ai fait tel jeu avec ma cousine, elle m'a dit que c'est vous, je vais venir vers vous, j'ai envie de faire l'animation. Et après, il y a le côté professionnalisation. Il y en a qui arrivent sans diplôme, juste en études, par exemple, et ils découvrent une voie, soit dans l'enfance, parce que comme on a des jeunes publics aussi, donc autour de l'animation avec les BAFA, tous les diplômes qui vont suivre, et à l'inverse, au niveau des jeux aussi, certains se déclarent et montent même d'autres entités, déclarent même des petits concours. On a notre secrétaire qui a une autre association, bon là c'est dans le volet de jeux vidéo, mais du coup ça permet en même temps de rejouer avec notre lieu, de rejouer avec des personnes et de ramener encore des nouvelles personnes et d'adhérer en tout cas.
La Cultimatech sert de pépinière, c'est-à-dire aussi bien pour des projets individuels, c'est-à-dire pendant très longtemps, nos bénévoles qui nous permettaient de renforcer nos équipes, on leur payait la moitié de leur BAFA, la moitié de leur permis. On essayait de faciliter la mobilité, qui est un très très gros problème on a en Guyane, et par rapport aux infrastructures qui manquent, donc qui sont en train de se résorber petit à petit, mais qui sont quand même un vrai talon d'Achille. Et puis après, on a aussi ce mécanisme par rapport à des jeunes qui ont envie. On a par exemple l'association Graines d'Élie, qui est une association qui a cuvé en pépinière pendant 2 ans au sein de la Cultimatech et qui est maintenant totalement autonome, qui est une structure qui va plutôt être sur le soutien scolaire, sur les interactions des jeunes avec les collectivités dans le sens de monter des projets ponctuels ou sur le long terme, qui est issue de la Cultimatech, qui aurait pu vivre sans nous mais qui a pu profiter de notre parapluie, de notre parasol et puis surtout de tous les liens qu'on a pu faire.
Ils utilisent le jeu également ?
Alors ils utilisent le jeu, mais moi ça sera plutôt du ludopédagogique. Là ils se sont plutôt orientés vers des tablettes par rapport à la facilité de transport, etc. Puisqu'une fois de plus ça reste un gros problème. Mm-hmm. Mais effectivement ils ont cette ouverture, c'est-à-dire que oui ils ont connaissance du jeu en tant que média, mais ils vont faire une sélection spécifique pour, alors ça sera plus du jeu plaisir ou ce que nous on peut apporter sur l'encadrement par rapport au public spécifique, mais en tout cas justement ils sont éveillés. Et d'ailleurs les structures médico-sociales qui nous approchent généralement ont elles-mêmes du jeu chez eux, mais c'est une autre approche par rapport à nos animateurs, nos encadrants qui viennent chercher véritablement.
Je me posais la question des jeux, est-ce que vous avez uniquement des jeux en français? Du fait de votre positionnement, est-ce que vous avez des jeux en espagnol, en portugais, pour aussi aider le public à venir et avoir un point d'entrée plus simple pour eux ?
À ma connaissance, que en français, mais justement le but justement est de les drainer vers ce français-là aussi en même temps. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, ils auront cette barrière-là dans la langue parce que ben, c'est un peu de l'insertion en même temps aussi. C'est-à-dire que ils découvrent les expressions, les phrases. Donc on va abaisser les niveaux des jeux. Je prends par exemple pour le cas du PLCI, on va prendre certains jeux où les règles on va les adoucir.
Un exemple
voilà.
De jeu.
J'ai pas les noms en tête. Tu en aurais un toi à proposer par rapport
On
à
va
PLCI.
Dire le jeu concept par exemple, voilà. Qui est très intéressant voilà. Parce qu'au niveau des mécaniques, enfin, je parle du cerveau comme un muscle qu'il faut travailler. Donc c'est reconnu dans les neurosciences, il y a pas de souci. Mais c'est très difficile à expliquer aux gens quand ils sont pas du monde du jeu de l'intérêt du jeu au-delà de la partie festive, ludique, on s'amuse. Et donc du coup, je parle du cerveau comme d'un muscle. Et le jeu concept, en fait, il y a une multitude d'icônes où on doit essayer de deviner des mots, faire deviner des mots. Mais par exemple, nos publics vont avoir une difficulté parce qu'ils ne connaissent pas telle expression. Donc forcément, c'est difficile de la faire découvrir. Donc naturellement, nos médiateurs vont ou bien choisir directement les cartes à faire deviner, voilà. Puisque du coup l'idée c'est que le joueur soit émetteur, il faut qu'il puisse s'approprier cet outil. Mais aussi on s'est retrouvé avec des groupes, alors la Guyane est spécifique, c'est-à-dire qu'on a énormément de cultures différentes, mais quand on va dans un village particulier, dans une commune particulière, dans un quartier particulier, on va avoir essentiellement des personnes d'origine brésilienne, des personnes essentiellement d'origine saramaca, des personnes essentiellement d'origine créole, haïtienne, etc., etc. Et donc du coup, une fois que nous on a fait la transmission, ils vont pouvoir jouer dans leur langue maternelle, puisque ces mécaniques-là permettent justement de s'adapter. Et au contraire, il ne faut pas voir ça comme un truc, bah, finalement, je retourne vers ma langue. C'est se dire, j'ai découvert ce jeu et je vais transmettre. Et on se retrouvait beaucoup de fois avec des mieux parlants, des personnes qui maîtrisaient mieux le français, qui d'un seul coup se transformaient en maître animateur. Et effectivement, l'impact était différent. Quand nous, on vient de l'extérieur, un jeune, la plupart du temps, entre 16 et 25 ans, notre salarié le plus âgé de terrain à 32 ans, face à des personnes de 45, 60 ans, il y a une petite réticence. On est dans un mécanisme, l'apprenant face au maître, celui qui dispense. Et quand d'un seul coup, ils voient que le jeu peut descendre à leur niveau et changer, il y a une petite magie qui se met en place. Et c'est ça, en fait, que nous, on va chercher, l'appropriation du jeu par tous, pour tout le monde. Il faut clairement identifier que le jeu, c'est exogène. Ça vient de l'extérieur. Donc du coup, venir avec un support qui a été fait en Amérique, en Europe, en Asie, venir sur un territoire comme le nôtre, il y a déjà cette transcription à faire. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça m'apporte? Où je me retrouve dans tout ça? Et c'est là où justement la mécanique du jeu va avoir son l'essentiel par rapport à la thématisation du jeu. Et c'est aussi là où nous allons créer des jeux, justement, parce que quand on vient au Festival international du jeu de Cannes, on a des auteurs qui, à la nuit du off, nous ont offert un jeu. Ils nous ont dit, écoute, tu en fais ce que tu veux de ce jeu-là, mais oui, on vous autorise à l'utiliser, à le développer, qui en atelier cité éducative avec des collégiens, vous en faites ce que vous voulez. Ils adhèrent, ils comprennent, ils connaissent, ils ont une sensibilité.
Les animations que vous organisez pour le public, c'est quelque chose de complètement gratuit?
Alors tout ce qui va être en extérieur de la ludothèque, en fait, tout ce qui va être l'itinérance, oui, parce qu'en fait elle est prise en charge via des appels à projets, donc politique de ville, tout ce qu'on fait. Et le but, c'est justement là, c'est le fait de faire cette découverte, de recentrer, puis de faire un peu cette éducation du jeu, en tout cas en Guyane. Et on le voit, on a même fait nos banderoles avec marque activité gratuite et tout. Et dès qu'on se déplace, il y a énormément de gens qui viennent. Et après de là, c'est un petit vivier parce que ça remonte lentement et sûrement. C'est juste que bon, quand on va dans l'Ouest à une commune comme Saint-Laurent,
300 km de notre aire d'opération.
Voilà. Place. Là, ils vont devoir être en autonomie. C'est-à-dire que oui, ils vont venir sur le Facebook, sur le site, sur le ça nous parler, papapapapap. Mais ils vont devoir, eux, déclencher leur jeu ou attendre les prochaines vacances où on passe. Ou alors, à l'inverse, vous avez des déclenchements d'associations aussi qui disent, ah, on a du jeu. Ce soit des professeurs qui se mettent en lien. Hop, hop. Ils montent une entité. Et après, via nous, ils nous consultent aussi pour venir déposer du jeu via une formule qu'on appelle la malle à jeu. Où nous, on sélectionne par rapport à l'activité des jeux dedans. En fait, avec une formation autour des animateurs, et du coup, on vient sur le lieu, on a fait la sélection par rapport aux besoins, et là, on les forme aux techniques d'animation. Donc, du coup, le sourire, le fait de jouer, le fait de donner cette envie, en tout cas. Et après, il y a une mise à jour régulière qui est faite, en fait. Et ça permet d'activer, par exemple, pour Saint-Georges, qui est une commune qui est juste à côté de Saint-Laurent, enfin, à l'opposé.
La plus grande frontière terrestre de France est chez nous. C'est-à-dire que la plus grande frontière terrestre avec un autre pays, c'est la Guyane qu'il a avec le Brésil. Qu'on se le dise. Culture générale. Allez, c'est cadeau.
Voilà. Exactement.
Justement, parlons de la Cultimatec. Aujourd'hui, vous êtes financé? Vous retombez sur vos pieds à la fin des fins?
On essaye, ça reste un combat de tous les jours, puisque comme dans tout domaine associatif, enfin, en tout cas principalement sur notre territoire, les subventions arrivent toujours après
la bataille.
Voilà, surtout. Donc il y a l'avance à faire. C'est là où la ludothèque est un sauvetage pour nous, donc le passe-temps, parce qu'il y a ce fait que les parents payent pour ce service-là, et du coup nous avons cette petite avance, mais qui prend en compte aussi la charge salariale, parce que c'est de l'enfance aussi, il y a des besoins au niveau du matériel, au niveau de l'accompagnement, au niveau des normes, en fait, à prendre en compte. Mais c'est un petit équilibre. Après, chaque année ça reste un combat.
Là où je continue à accompagner l'association pour l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement ça demande beaucoup d'expérience, ça demande beaucoup d'entre-gens, c'est savoir à qui s'adresser, comment s'y adresser. Et effectivement, chaque année, on a des questions existentielles en se disant, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'effectivement, il s'agit de, bah, c'est de l'univers du jeu que j'ai appris ça, c'est-à-dire que faut anticiper à 2-3 coups à l'avance, parce que là, par exemple, nous avons une masse salariale et des charges à hauteur de 15 000-22 000 euros actuellement. Ben, naturellement, si les subventions de cette année, la récolte est mauvaise, eh ben, nous, on est confronté à des salariés qu'il va falloir payer tous les mois. On a confronté à un loyer qu'il faudra peut-être abandonner, mais un salarié qu'on met de côté, c'est potentiellement une bibliothèque qui brûle, parce qu'un animateur chez nous va maîtriser entre 200 et 300 jeux au bout d'une année. Et ben, quand cet animateur part, d'une part, lui ne peut pas profiter de tout ce qu'il a appris avec nous, puisque les jeux restent à la Cultimathèque, mais surtout, nous, on doit reformer à nouveau quelqu'un, et on a tout intérêt à garder nos salariés. C'est vraiment très important. Et après, ben, par rapport à ces difficultés-là, donc oui, on a des, on n'a pas à se plaindre. On est trop petit pour être considéré comme gros et trop gros pour être considéré comme petit. C'est-à-dire que oui, annuellement, on va totaliser entre 120 000 et 150 000 euros de subventions. Tout de suite, ça va paraître énorme dans la bouche de quelqu'un qui, dans les oreilles de quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Mmh. Mais quand effectivement, on a des effets salariales, charges et autres, c'est difficile. Quand justement, les activités sociales sont gratuites, ben, il faut tout prendre en compte. On parle de nos bénévoles, mais nos bénévoles, ben, ils ont un coût pour nous. Quand ces jeunes s'engagent avec nous, on leur paye à manger, on va les chercher, parce que la mobilité, une fois de plus, c'est un très gros problème. Mmh. Et cette année, par exemple, on a été confronté à un retard de paiement de subventions, où les jeunes se sont décarcassés pendant tout l'été, parce qu'ils se battent, hein. Même quand on leur dit, bon, écoutez, les jeunes, on va arrêter, on va pas être en mesure de vous garantir nos engagements vis-à-vis de vous, ils restent, ils sont là. Et c'est ça qu'on a voulu récompenser avec Prends ton envol chez nous et on ira jouer chez vous, donc le projet où on va amener des bénévoles cet été en métropole pour qu'ils puissent découvrir lors d'un premier voyage d'autres publics d'usagers, c'est les remercier, les récompenser. Et c'est aussi pour ça qu'on vient au National, c'est aussi pour montrer à nos partenaires territoriaux de Guyane, la CAF, les politiques de la ville, les communes, que quand il y a un problème de retard administratif, ça impacte non seulement le fait que on pourrait ne pas aller sur le territoire, or on y va, mais surtout que les jeunes qui sont très engagés citoyennement, puisque c'est via l'éveil à la citoyenneté est primordial pour nous, et cet engagement du jeune pour les jeunes, par les jeunes, elle n'a pas à être déçue. Il n'y a rien de pire que de voir un jeune à qui on a fait des promesses et nous ne pas pouvoir les tenir, et le jeune finalement être finalement en désespoir, aveu, perdre la confiance à des entités, des collectivités. Tout ça, il y a 5-6 ans, nous, sur notre territoire, on a fait crisser des dents suite à des très très gros retards de paiement. On a mis des mascottes sur la rocade. On a fait donc un ralentissement. C'était très bon enfant, mais effectivement, il y a des personnes qui ont perdu une heure et demie sur leur temps de trajet pour aller au travail. Mais effectivement, c'était indispensable d'interpeller les pouvoirs publics et de temps en temps, voilà. Donc on fait ça amicalement, mais effectivement, là, cette année, au lieu d'attendre 6 mois que l'argent arrive et après la bataille, quand nous faisons les avances de trésorerie, on a dit aux jeunes, bah, écoutez, on thésaurise tout de suite là et on vous fait partir immédiatement. Donc engagez-vous sur une année, vous choisissez, on est dans le cadre du bénévolat, c'est vous qui voyez comment vous engagez. Mais par exemple là, le directeur ici présent, en temps normal, chapeaute les équipes. Ben là, ils sont en totale autonomie sur les vacances de Pâques. Ils vont à Kourou, à plus de 45-60 km de leur lieu de vie. Mmh. Et on a nos équipes, nos salariés, Christina, Nickel. Enfin, on a une dizaine de jeunes qui sont en train de turbiner actuellement pour le projet de l'association sur une période d'encreuse, puisque effectivement de janvier jusqu'à juin on ne sait pas si on va être financé, et on agit quand même grâce à ces jeunes, donc merci à eux.
Et donc vous voulez développer un petit peu ce nouveau sujet de on ira jouer chez vous, puisque c'est votre actualité de cette année?
Ben, le but c'était de rayonner au national déjà pour commencer. Après, il y a comme il a dit tout à l'heure, c'est de récompenser aussi ces bénévoles en fait qui travaillent avec nous. Pour beaucoup, ils n'ont même pas pris l'avion pour changer de territoire, à part pour aller dans les pays frontaliers, Brésil ou Suriname. Donc du coup, déjà l'idée leur a énormément plu. Le fait de se confronter avec d'autres ludothèques, c'est-à-dire que eux, ils en ont vu qu'une. Du coup, ben ça va être quoi les autres? Comment ça se passe? Les techniques d'animation? Comment ils tournent? Du coup, il y a ce côté-là. Il y a le fait d'aller dans un nouveau département. C'est en même temps, c'est qualitatif pour eux aussi. Il y a l'ampleur qui prend dessus.
Tout à fait. En fait, donc cette année, on va être sur la façade atlantique, donc du Sud-Bretagne jusqu'à Bordeaux. Mmh. Et en fait, on a la chance d'être acteur depuis plus de 14 ans, donc on a quand même des sympathies. Je ne sais pas si on peut faire de la publicité qui n'en est pas, puisque ce sont réellement de soutien. On a des cartes à Bordeaux qui, depuis la création de l'association, c'est-à-dire quand ce n'était qu'un projet qui nous a accompagnés sur le choix des jeux, sur des tarifs préférentiels, etc. On a Philippe Despalières, donc qui est un grand nom, donc puisque c'est le papa de Loup-Garou de Tiercelieu. Nos jeunes jouent à Loup-Garou, bah, à chaque fois qu'il y a une soirée jeu, on a des tablées de 15-40 personnes. Donc ils connaissent Loup-Garou, et leur dire de bah, écoutez, on va aller rencontrer ce monsieur dans ses gîtes ludiques à Nantes, et on va rayonner, puisque ben, quand nous on va à Saint-Laurent, on se lève à 4h30 du matin pour aller à Saint-Laurent faire des animations toute la journée et revenir. On a l'habitude de faire des 200 km pour faire des animations, ce qui fait de nous, soit dit au passage, la plus grande ludothèque de France par rapport à notre rayon d'intervention. Ben, là, on va rajouter 8000 km, et donc à partir de Nantes, on va essayer de mettre en place des activités sur le Sud-Bretagne et jusqu'à Bordeaux, en essayant de rejoindre des festivals, des ludothèques, aller en ruralité. On n'a aucun problème pour aller dans une petite commune avec 15 habitants, parce que c'est aussi ça qu'on veut, qu'on cherche. La Guyane a plus de 50% de la population à moins de 25 ans. C'est énorme. Et donc, du coup, quand on vient dans un pays de vieux, de gangans, comme on dit chez nous, c'est une autre approche. Et effectivement, ces jeunes-là, voir qu'ils apportent quelque chose à des personnes d'un certain âge, d'autres cultures, ça va les valoriser leur propre image. Parce que généralement, ça a été des jeunes, pour l'essentiel, qui ont été en rupture scolaire, qui ont perdu confiance en eux, aux institutions, et cette interaction avec l'autre, des métros, ce que nous on appelle des métropolitains, cette interaction avec eux, et puis dire qu'ils peuvent leur apporter quelque chose, c'est très très gratifiant. On a vu une jeune demoiselle, ça me donne la chair de poule, qui est venue hier. Elle est née en Guyane, elle a quitté pour faire ses études et certainement sa vie. Elle avait les larmes aux yeux en venant sur notre stand parce qu'on lui a rappelé le pays. Et c'est le propre de... On a cette sympathie-là. Quand, par exemple, des Antillais, des Guyanais se retrouvent en métropole, ils font corps. Je suis d'origine guadeloupéenne. Les Guadeloupéens et les Martiniquais, les Îles-Sœurs, on se tape sur la figure à longueur d'année, à longueur de journée. Quand on est en France, on fait corps. Vous voyez dans les
on
cités...
On dit les Antilles, d'ailleurs, c'est pour ça.
Quand vous voyez les cités universitaires, les universités, les Antillais, ils sont comme ça. Avec les Réunionnais, pourtant, ils sont à 12 000, 15 000 kilomètres. On est comme ça parce qu'on a la même réalité. Et il n'y a plus de notion de couleur, il n'y a plus de notion de culture. On est du soleil. C'est une mentalité qu'on retrouve énormément. C'est pour ça aussi qu'on se répand à travers tout le monde.
Je pense qu'il y a des difficultés communes au niveau des dom-toms. Je pense qu'ils ont les mêmes problématiques de transport,
la ruralité,
etc.
L'urbanité.
D'amener les jeux.
Tout à fait.
Parlons-en. Comment faites-vous pour récupérer des jeux? Où est-ce que vous pouvez vous approvisionner? Est-ce que vous avez des partenariats?
On a bien compris que vous allez repartir avec des valises pleines.
Ah oui, ça c'est le but. Ben, comme on l'a dit, on a un partenariat qui, depuis la création de l'association, avec des cartes déjà sur la boutique sur Bordeaux déjà. Et là, on va faire déjà une belle razzia. On compte aussi sur le salon aujourd'hui présent, enfin le festival, sur ses rencontres avec ses créateurs, ses mécanismes, tout ça, en parlant de nos histoires aussi, puisqu'il y en a, ça les intéresse aussi de voir ces jeux joués dans d'autres cadres et tout ça. Donc il y a ça, il y a le fait de venir nous charger avec les enfants pour pouvoir rapatrier le plus de jeux, mais à plus petit coût. Parce que ben on se rend bien compte que envoyer un colis de Paris à Nice coûtera pas le même prix que de Paris à Cayenne en fait. Et du coup c'est soit on a la formule par bateau qui coûte beaucoup moins cher, mais ça arrive dans 3 mois, voilà. Mais du coup on arrive, on est tout frais, on a vite. Voilà, il faut patienter. Ou alors on passe par l'avion et là on a des charges. Et du coup, ben, un jeu acheté à 40€, concrètement, il nous revient à 70€ à Cayenne. Sans même de parler de marge, de tout ça. Juste l'emmener pour le mettre en jeu en Guyane.
La fameuse vie chère dont les ultramarins se plaignent. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut considérer que tout ce qu'on a en ultramarin, donc je parle de la Réunion, Mayotte, Polynésie, Guyane, Antilles, c'est minimum 20 à 40%. Quoi qu'il arrive, par rapport au transport, la réalité est vraie. Et sur certains produits qui ne sont pas du jeu, ça peut être multiplié par 5. Imaginez.
Je me posais la question, vous faites partie donc des ludothèques de France.
Tout à fait. Oui.
Des ludothèques de France, est-ce qu'elles n'ont pas un fonds qu'elles prêtent aux diverses ludothèques? Est-ce que ça ne fonctionne pas du coup avec les dom-toms?
Alors déjà, nous, on a un super avantage, et d'ailleurs, je fais un gros clin d'œil à la LF justement, c'est qu'ils nous mettent de la mise à disposition de services civiques, un service qu'ils font pour toutes les ludothèques. Et nous, déjà, c'est tout bête, mais d'avoir 2 services civiques comme ça à l'année, avec quelques documents à remplir, c'est déjà... un super cadeau tombé du ciel. Parce que nous, on se retrouve avec deux jeunes animateurs. Première expérience, bon, on va pas revenir sur le principe du service civique, on le connaît en tout cas. Mais en Guyane, ça a vraiment un impact de fou. Ça crée des carrières concrètement. Il y en a qui n'avaient pas prévu, mais qui se sont dit, bon, ben, en service civique, c'est un mi-temps, c'est ci, c'est ça. Et puis, ben, ils sont encore dans l'équipe aujourd'hui.
Au niveau du bureau, par exemple, ils ont tous été service civique. Steve était étudiant quand il était service civique. Maintenant, il est instituteur. De ses propres mots, c'est grâce à Acultimatech qu'il s'est orienté vers la petite enfance et l'impact qui approchait. Nickel est un petit peu plus jeune. Il est parti faire ses études en métropole, 5 ans d'études. Master. Il est revenu au pays et immédiatement, il s'est présenté à nous et puis immédiatement, lui a dit, bah tiens, prends les clés. Et puis bah, Karl a été bénévole service civique, il est trésorier actuellement, il est venu définitivement, pas sûr, mais en tout cas depuis plus de 6 mois il est en métropole, mais il a tenu à garder la Cultimatech avec lui et trésorier de l'association, et donc il était sur le stand, il est venu pendant 3 jours sur le stand le tenir malgré son travail actuel, etc. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est
Et après, pour revenir sur la LF, sur la question principale, on a aussi cet accompagnement que, comme on l'a dit, il y a Cyril qui se retire lentement mais sûrement de l'association, et on a un salarié, Kouf, qui d'ailleurs est ce qu'on appelle
il est mong. Il est adulte relais, voilà. Il est mong.
Voilà. Et du coup, c'est le salarié qui a 7 ans de boîte avec nous. Encore une fois, sur quoi on peut s'appuyer sur la LF, c'est qu'aujourd'hui, on veut maintenant l'upgrader en ludothécaire. Donc, avoir une VAE, donc une validation d'acquis. Et du coup, ben, la personne qui peut nous accompagner directement, qui s'est rapprochée de nous, c'est la LF, en fait. Du coup, voilà, ça fait encore des soutiens. Après, au niveau des financements, il y a des financements qui sont fléchés très métropole. Et pas que nous on est en Guyane, et à l'inverse là on vient d'en trouver un, enfin à vérifier, que je viens justement d'expliquer à la LF, qui eux sont en train justement de répertorier. Mais c'est là, comme on l'a dit en début d'interview, ayant en Guyane beaucoup de soucis autour du social, on a quelques enveloppes aussi dédiées à nos territoires, en fait.
Et après il y a le montage spécifique d'une ludothèque. Les ludothèques peuvent être différentes essences. On a des ludothèques directement issues de collectivités, donc qui forcément vont être enfermées dans des mécanismes spécifiques liés aux municipalités, éventuellement qui peuvent être dans un service à part entière comme un sous-service, et donc du coup qui ont des amplitudes qui sont beaucoup plus délicates. On a des ludothèques de passionnés, généralement les ludothèques itinérantes, où nous allons avoir entre guillemets plutôt une essence éducation populaire, vie citoyenne, aller dans les quartiers, donc beaucoup plus libre, on va dire. Il y a aussi des petites ludothèques en ruralité qui sont creusées de liens sociaux qui sont très importantes. Et donc c'est vraiment très très diversifié, et maintenant je suis en train de voir une nouvelle génération de personnes qui font de la mise en jeu, qui dans l'absolu pourraient être considérées comme des ludothécaires, comme des ludothèques, mais qui sont plutôt dans le volet entrepreneurial. Donc effectivement l'effet sur le terrain est le même, le jeu, mais effectivement la philosophie est légèrement différente. Une philosophie de collectivité n'est pas la même qu'une philosophie d'association de passionnés, que d'animateurs, entrepreneurs, etc. Mais malgré tout, on utilise tous le support jeu. Les faits attendus sur nos publics sont exactement les mêmes. C'est le cheminement, c'est la philosophie qui va être légèrement différente, en fait.
Je me posais la question, dans la dernière interview, vous parliez du fait que vous étiez une association et que peut-être vous alliez changer de statut pour passer en coopérative. Est-ce que c'est quelque chose qui a eu lieu ?
C'est un projet.
Ça reste en projet ?
C'est au long cours, en fait. C'est-à-dire que c'était une piste de réflexion, justement, et qui est assez lourde. On parlait de SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, donc une structure ESS qui est, dans le droit commercial, une structure privée, une SARL, une SASU, ou une SAS. En fait, c'est des choix à faire. En Guadeloupe, ils ont réussi. En Guadeloupe, il y a une SIC qui est dans le monde du jeu, des animateurs, des associations qui se sont rassemblés pour faire collectif. Il y a d'autres SIC ludiques, alors j'ai pas les noms, mais qui existent en métropole, un petit peu partout. Cette logique-là a un intérêt quand il y a différentes structures indépendantes qui ont un même objet, une même vocation, ce désir-là de fédérer. Et après, effectivement, le problème de toute fédération, c'est qu'il faut une somme d'individualité, une somme d'institutions, et c'est là où c'est délicat. Et donc, c'était l'une des pistes que nous avions il y a 5 ans. On l'a toujours en tête, mais c'est une usine à gaz, c'est-à-dire qu'il faut trouver des volontaires. C'est un fonctionnement qui est légèrement différent, mais cet embryon existe au sein de la Cultimathèque. Nous avons parlé de pépinières. On a eu une pépinière pour une association, mais on a aussi une pépinière pour une entreprise. Et puis la collaboration avec d'autres associations qui, à terme, pourraient rejoindre éventuellement une future SIC. Et donc voilà. Donc après, c'est un montage en fait. C'est des réflexions.
Après, il y a une réalité à prendre en compte quand on a pris la comparaison avec la Guadeloupe, c'est que la Guadeloupe est beaucoup plus petite que nous, mais beaucoup plus peuplée que nous. Donc plus de personnes, plus d'initiatives, plus d'entités quoi concrètement. Et nous, on a un grand territoire, mais très vaste. Du coup, en SIC, oui, nous on est acteurs. On trouvera une ou deux associations un peu plus loin, dans l'Ouest et autres. Mais dès lors, à se mettre ensemble, se fusionner et à collaborer, ah ben non, on est bien dans notre coin, on fait déjà bien nos affaires. Enfin, chacun, voilà. Il n'y a pas ce fait d'être agglutiné, en fait. Il y a donc qui pourrait justifier qu'on prenne du temps. Et voilà, concrètement.
Dans la dernière interview aussi, vous parliez d'un projet de créer une boutique ludique.
Justement, la pépinière, ça a été ça, c'est-à-dire l'Imazonienne, la SAS Imazonienne. Alors initialement, donc elle s'est réalisée, il n'y a pas de souci, sauf que ça a été entre guillemets un échec. Donc la SAS Imazonienne, initialement, c'était les salariés qui ne pouvaient plus être des emplois aidés. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, à l'heure actuelle, la Cultimathèque n'est pas en mesure de payer plein pot sur fonds propres l'intégralité des salaires. C'est un drame. Et donc, du coup, on ne peut compter que sur des emplois aidés. Sauf que cette magie-là a une fin, c'est-à-dire qu'on a pu profiter de 3 renouvellements d'emplois PEC, plan emploi compétences, grâce à cause du Covid. Mais passé ces 3 ans, qu'est-ce que l'on fait? Comme je vous le disais, un salarié qui part, c'est une bibliothèque qui brûle, c'est autant de savoirs qui disparaissent de l'association, parce qu'il va falloir, avec les nouveaux, faire réapprendre des jeux. Et donc, du coup, la SAS Imazonienne avait pour objectif d'intégrer 5 de ses anciens salariés dans un projet entrepreneurial. Alors, on a eu de superbes photos, on avait une superbe boutique de 250 mètres carrés, bien positionnée, boutique de jeux, etc., etc. Hélas, on n'a pas trouvé notre public. Et donc, du coup, la SAS Imazonienne, pour l'instant, est rentrée en sommeil. Et effectivement, c'est un échec, mais c'est un échec aussi qui nous a permis d'apprendre. Comme disait Mandela, qui est une référence chez nous, je ne perds jamais, j'apprends. Et donc, du coup, voilà, ça fait partie de la philosophie. Et puis, quelque part, c'est tout porteur de projet, toute personne qui est dans l'action, elle peut pas s'arrêter sur un échec et elle doit s'attendre à un échec. L'important après, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet échec-là. Alors là, on a la chance que la Cultimathèque était suffisamment importante et grosse pour pouvoir dire rediriger les choses. Par exemple, l'Imazonienne, quand on a constaté que au bout de 2 ans, ça marchait pas fonctionnellement, ça réussissait, parce que c'était sans subvention à ce niveau-là. Ça fonctionnait pas par l'économie traditionnelle des particuliers qui viennent, boutique jeux, café jeux, restauration. On a vraiment tout essayé. On avait toutes les opportunités. On s'est dit, bon, on va essayer de garder les lieux et le mettre en associatif. Et même là, on a constaté que ça servait à rien d'aller chercher des subventions pour entretenir un lieu et qu'il y ait de la déperdition. Donc du coup, on s'est rétracté, c'est-à-dire on a laissé tomber l'un des lieux que l'on avait sur Cayenne en se disant l'argent qu'on va chercher via des subventions est mieux investi dans l'itinérance. Et justement, c'est ce qui nous a permis de réactiver nos 2 ludobus, notre minibus, en les siglant. Donc maintenant, on a de jolis... Pendant beaucoup de temps, on a eu des véhicules sans sigle, on ne savait pas qui c'était, etc. Maintenant, ils sont siglés, grâce aux partenaires financeurs, bien sûr. Mais surtout, ça nous a juste permis de dire, bon, les subventions, si ça ne peut pas aller là, ça ira là. On est obligé de réfléchir en rentabilité. Est-ce qu'il y a un comble pour l'économie sociale et solidaire? Et donc, voilà, mais c'est des choix, c'est des choix qui peuvent être bons ou mauvais. Et la nouvelle équipe, la nouvelle présidence a d'autres orientations. Je suis membre fondateur, j'ai insufflé cet aspect ludothèque, éducation populaire à la Cultimathèque. Maintenant, on commence à avoir des professionnels de l'apprentissage, des enseignants qui prennent en main l'association. Et donc forcément, on va plus aller vers ludopédagogique. On ne va pas abandonner le social, on ne va pas abandonner l'éducation populaire et autres. Mais forcément, ce sont les porteurs de projets qui font la structure dans laquelle ils œuvrent.
Je m'interroge sur au niveau des investissements. On sent bien que le public n'est pas le même, enfin, est spécifique en tout cas à la Cultimathèque. Et je me dis, les jeux que vous présentez, j'imagine, sont très grand public, très accessibles, justement pour permettre à tout le monde d'y arriver. J'imagine vous n'êtes pas trop jeu expert. Hein.
Oui, totalement, on fait tout. On a vraiment le prisme large. Par rapport au social, nous sommes les premiers passeurs ludiques que rencontrent les gens de terrain. les usagers, on va vers, donc on va dans un quartier où il n'y a pas nécessairement l'argent pour acheter des jeux, il n'y a pas forcément la culture du jeu, et donc là effectivement nous sommes les premiers passeurs ludiques. Sur les premiers passages, on est sur des jeux simples, rapides à expliquer, rapides à prendre en main, et une période de temps court puisqu'il faut une gratification immédiate. En contrepartie, les quartiers où on revient régulièrement, en médiathèque par exemple, où on a une structure qui nous permet d'accueillir et surtout de donner des rendez-vous fixes, et bien là par contre on va pouvoir complexifier le jeu progressivement dans une certaine mesure. Et maintenant, les soirées jeux, là, paradoxalement, on va avoir une population qui vient de l'extérieur, qui est déjà sensibilisée au jeu, qui sont généralement des personnes qui ont les moyens et qui viennent retrouver d'autres joueurs. Et donc, effectivement, on a vraiment tout le prisme. On a 80% de nos activités qui sont sur les 6-12 ans des publics qui sont initialement pas nécessairement dans le jeu. Et donc, ce sont nos activités sociales, éducation nationale et autres. Et on a aussi 20% où nous allons avoir des joueurs tels que vous, tels que moi, tels que n'importe qui visite le festival du jeu, qui a déjà leur propre connaissance. Et là, on va se rassembler entre nous en disant « Ah, je savais pas qu'on jouait ça en Guyane. Ah, je savais pas. Là, Cultimatech participe à des Kickstarter et on a des jeux qui sont au kilo plastique, qui sont très peu sortis, mais qui sont là. »
C'est pas ce que j'imaginais. En effet, je te remercie de cette précision. C'est bien d'avoir réussi à ouvrir complètement ce spectre.
Mais en prenant en compte ces fameux publics qui viennent ponctuellement, qui viennent de 3 ans, ils ont cette culture-là justement quand ils arrivent en Guyane. Et du coup, il y a cette mise en place, cette volonté de se retrouver entre eux et de partager quand même avec quelques autres personnes. On le voit, on retrouve avec des soirées où on a 40 personnes quand même en fait. Ouais. Pour un territoire qui n'est pas spécialisé dans le jeu, voilà, et qu'on a connu des premières soirées avec peu de personnes, on voit que justement le bouche à oreille se fait et que ça s'amplifie, et du local en plus concrètement.
Et il faut pas se mentir, par exemple nos soirées jeux les plus réussies, c'est Loup-Garou Tiercelieu, parce qu'ils ont le mérite d'avoir été joués, d'être démultipliés dans les centres de loisirs, les collectivités, les passionnés. Alors certes, pour des ludistes avertis, Loup-Garou finalement peut même être décrié parce qu'on aimerait bien jouer, pousser du Meeples, découvrir autre chose, mais malgré tout Loup-Garou est fédérateur. Et donc là par exemple on a une soirée jeu qui se fait sans nous, qui s'est fait sans nous ce week-end, Loup-Garou Tiercelieu, population entre 16 et 25 ans, essentiellement des universitaires de Guyane donc, et ça se fait, ça s'organise. Et effectivement, quand on fait des tables de jeux de rôle, quand on fait des tables des gros jeux, donc j'ai parlé de Cid, de Cthulhu War, de Cuba, d'une multitude d'anciennes références et de nouvelles références, ben là on a un public un petit peu plus restreint, un petit peu plus tatillon. Mais justement, le fait d'avoir à côté du Loup-Garou, eh ben, de temps en temps, il y en a « Ah, c'est quoi ça, cette figurine, ceci, cela ?» Et puis régulièrement, quand on se fait un petit plaisir, on pose sur une table de 3 mètres carrés tel ou tel jeu de figurines, tel ou tel jeu qui demande de la place, eh ben, on a 2-3 personnes qui s'intéressent, qui se posent et qui jouent. Et puis généralement, quand on a ce processus-là, on dit « Mais au fait, ça ne t'intéresserait pas d'être bénévole? Regarde ce qu'on fait, on va dans les quartiers, on fait ci, on fait ça. » Et c'est comme ça qu'on entretient nos troupes et qu'on donne envie, l'envie de jouer.
Vous plantez des petites graines et ça pousse
exactement.
Bien. C'est parfait.
Et donc, si on veut vous retrouver cet été, vous avez déjà des dates, des endroits où on pourra vous croiser ?
Alors, on est venu au Festival de Cannes déjà pour nous faire connaître et faire connaître ce projet. Alors, ce projet va avoir lieu quoi qu'il arrive, puisqu'on l'autofinance. Il faut quand même concevoir que c'est 25 000, 30 000 euros qui sont ponctionnés sur notre propre trésorerie, indépendamment de n'importe quelle autre action. Donc, c'est un effort conséquent qu'on fait pour nos bénévoles. Mais de manière totalement égoïste et structurelle, la Cultimatech va profiter de ce déplacement pour lier partenariat au national, et l'argent qu'on va pas dépenser en jeu va être réorienté vers ce projet-là. Et donc du coup, on sait le créneau, ça sera entre le 15 août et le 31 août. Ça sera entre le Sud-Bretagne et Bordeaux. On sait déjà qu'on sera sur le Festival de Bordeaux sur notre dernier week-end d'intervention. Philippe Despalières est en réflexion pour se dire, tiens, comme il ouvre son gîte ludique, de faire une soirée jeu et profiter de notre venue avec notre matériel, puisque du coup, on va acheter du matériel en métropole pour être en activité sur les 2 semaines, de faire un mini-festival ou en tout cas une mini-rencontre plus. Mm-hmm. Et sinon, on s'est rapproché des ludothèques en leur disant, bah, écoutez, accueillez-nous une après-midi, accueillez-nous une journée. On a des grandes enseignes, je ne sais pas si on peut les citer, mais de boutiques de jeux qui sont présentes en Guyane, et on va essayer d'aller voir deux trois de leurs franchises sur la façade atlantique qui nous intéresse, pour justement créer ce lien. Et puis on est ouvert aussi à une petite commune avec peut-être 15 habitants qui nous appellerait, qui dirait ah ben ça serait sympa d'eux, et puis on viendra. Et puis on viendra pas les valises vides, comme vous avez pu voir sur le stand. On va venir aussi avec les petits piments, les petites confitures, les petits rhums, le bois de Guyane, etc., pour aussi transmettre ce que vous allez nous apporter avec d'autres usagers, d'autres attentes, d'autres publics. Cette découverte qu'on vient chercher avec notre bénévole, et ben on va essayer de leur faire découvrir un petit bout de notre Guyane, sans prétention, mais justement qu'il y ait de l'échange, parce que ça a son importance, parce que nul n'étant prophète en son pays, quand nous allons revenir en Guyane avec les jeux, avec ces bénévoles qui ont de la lumière plein des yeux parce qu'ils auront vu qu'on les a emmenés loin, et ben peut-être que nos partenaires institutionnels locaux vont se dire c'est peut-être autre chose qu'une association locale, c'est peut-être autre chose que cette petite association qui a commencé avec deux valises. Et voilà, et donc la Cultimatech a grandi. Je suis fier de transmettre les clés à Jérémy pour l'opérationnel de terrain. Je suis fier que Steve, Nickaël, Karl aient repris mon bébé qui est devenu un adolescent. Et j'espère vous revoir dans 4-5 ans. Pas nécessairement moi, mais peut-être Jérémy qui passera le flambeau, peut-être le président qui aura l'opportunité de venir pour vous parler de la Cultimatech avec le même cœur que moi j'ai pu donner.
On se sent très ému, bébé qui grandit bien.
Oh, oui. Exactement. C'est surtout qu'en Guyane, les associations qui tiennent plus de 10 ans, c'est énorme en fait. Il faut faire face à beaucoup de problématiques et c'est là qu'on voit qu'on est presque d'intérêt public, je pense qu'on pourrait le dire.
Donc si vous êtes sur la côte ouest cet été, cherchez un petit bout de Cultimatech, et si exactement. Vous êtes intéressé pour les accueillir dans votre village ou dans votre structure, faites leur signe. Je crois que tout est disponible sur votre site internet.
Exactement. Donc cultimatech.com, cultimatech@live.fr pour le mail. Et sinon, effectivement, sur Facebook, vous allez nous retrouver. Puis effectivement, le jeu, c'est pour tout le monde. Et on en est l'illustration. Et c'est avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'on ira jouer chez vous.
Merci beaucoup.
Merci Cyril et merci Jérémy.
Merci.
Chères auditrices et chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.